partons sans l'air au travers du maillot. En roue libre et bien sûr sans les freins. Carla retourne, Carla retourne, retourne là. Et pourquoi pas faire le tour de la terre. Il est quelle heure au Guatemala. J'ai jamais pris de fusée horaire. Toujours suivi les mêmes schémas. Carla retourne, Carla retourne, retourne là.
Radio Vélo, en direct sur CETA Radio, ce mercredi 27 avril 2016. Bienvenue Julien.
Bonsoir à toutes et à tous.
À nos côtés également Guillaume.
Bonsoir tout le monde.
Mélanie.
Oui, mais... pardon Mélanie, pardon, je t'avais appelé.
Et Max qui est avec nous également.
Salut.
Et nous avons au téléphone notre ami Benjamin. Benjamin, est-ce que tu nous entends?
Je vous entends très bien, bonsoir tout le monde.
Bonsoir et bienvenue en direct dans Radio Vélo. Le programme de cette émission, on va refaire un petit peu les Ardennaises et puis se projeter sur les courses qui viennent. On aura également la chronique matos avec Guillaume. On va avoir deux invités, Marion Gachy qui s'occupe des relations presse chez IAM Cycling, c'est ça qu'on dit ça comme ça?
IAM Cycling.
Et puis également l'interview de Laurent Monrolin, qui est le président organisateur du Tour du Jura, qui va commencer et puis même se dérouler cette fin de semaine.
Et oui, ça commence à partir de vendredi, donc super plateau. J'espère qu'il va faire beau temps, parce qu'apparemment au Rousse, il y avait de la neige. J'espère que ça sera fondu d'ici là. Quoi.
Il nous fera le point météo, bien évidemment, la minute régionale avec Mélanie, et puis les petits pronos, vu que le Tour de Romandie est lancé, mais on va commencer par un petit débat, et oui, le débat sur les Ardennaises avec l'Amstel, la Flèche et Liège. On ne s'était pas re-entendu depuis, et bien voilà pour la reprise de Radio Vélo après une petite semaine de coupure, de retour en direct sur CETA Radio et en podcast, bien évidemment, dès la fin de soirée sur radiovélo.fr. On commence par voir un petit peu ce qui s'est fait du côté des Ardennaises.
Mesdames, messieurs, chers collègues, la séance est ouverte.
Et pour lancer ce débat, eh bien Benjamin a fait le point un petit peu avec nos amis les forumers de Vélo Club du Net. Benjamin, tu leur as posé une question, une petite question générale?
Oui, mais je leur ai demandé, vu qu'on est un peu un endroit charnière de la saison, qu'est-ce qu'ils avaient pensé des classiques, donc notamment les Ardennaises, qui venaient de se dérouler. Qu'est-ce qu'ils attendaient pour les grandes courses par étapes qui allaient arriver? Et pour les Ardennaises, le constat était sans appel, et je vais me joindre à ces faux rumeurs pour dire que c'était nul.
Ouais, alors justement, pourquoi c'était nul?
Bah, il s'est pas passé grand-chose. Hein. Bon, alors peut-être on attend trop, peut-être également. Il y a les Flandriennes qui proposent toujours un spectacle. Cette année, c'était un très bon cru avec le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, avec des courses superbes qui se sont déclenchées loin de l'arrivée. Et malheureusement, les Ardennaises aujourd'hui, c'est les punchers, les sprinters punchers qui mènent le débat, quoi. Il y a des équipes, des armadas comme Movistar qui ont 5 ou 6 coureurs qui pourraient faire top 10 ou les X pareil, qui roulent pour un sprint en côte pour Valverde ou Alaphilippe. Donc forcément, il n'y a pas vraiment de spectacle, quoi.
On se retrouve un peu comme sur une étape de Tour de France, il y a une échappée qui s'en va, et puis en fait la course est intéressante sur les 2-3 derniers kilomètres, c'est tout quoi.
Ouais, c'est ça, et puis il y avait beaucoup de faux rumeurs qui attendaient les Bastogne-Liège parce que cette année il y avait une météo qui était pourrie, alors tout le monde s'attendait à ce que cette météo favorise les attaques, les défaillances, tout ça, et finalement c'était nul, et le parcours et l'organisateur sont coupables parce qu'ils ont rajouté une bosse après Saint-Nicolas à 2 km de l'arrivée, et ils retardent de plus en plus les attaques. Et je veux dire, moi je l'ai regardé en différé, mais je me suis ennuyé quoi.
Alors est-ce que
Leclerc qui a essayé un peu de secouer, mais...
Est-ce que du coup on refait un petit peu le même débat qu'on avait fait? Est-ce qu'il faut raccourcir les étapes? Est-ce qu'il faut peut-être rendre les courses peut-être un peu moins dures, parce qu'aujourd'hui c'est les coureurs qui font la course, Et peut-être que avec peut-être ce changement aujourd'hui, l'attitude des coureurs, est-ce qu'il ne faut pas raccourcir la distance, la difficulté pour qu'il y ait peut-être plus de spectacles, hein?
Alors, je ne sais pas, mais par contre, le parcours, clairement, il faut changer, notamment Liège-Bastogne-Liège où tout est concentré sur la fin. Il vaudrait mieux une course, quitte à ne plus aller jusqu'à Bastogne, qui est quand même assez plat. Faire une course avec les côtes, surtout au milieu de l'étape, bon, quelques-unes sur la fin, bien sûr, mais pour permettre les mouvements de loin, parce que là, avec des courses aussi dures, comme tu dis, avec tout qui est concentré sur la fin, les coureurs, ils vont pas attaquer, parce qu'ils savent qu'ils vont le payer, ils vont le payer ensuite. Bon, la flèche wallonne, il y a le mur de huit qui fait son charme. Ok, bon, celle-là, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Mais alors, pour l'Amstel, depuis qu'ils ont mis le Cauberg vers l'arrivée, et Liège, de plus en plus, en rajoutant des difficultés après la côte de la Redoute, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'un montage en règle des côtes mythiques, quoi? Je veux dire, la côte de la Redoute, ça faisait quelques années qu'on était habitué, mais là, ça a été le bonbon. Même la Rochefoucauld, maintenant, ils attaquent plus dedans, donc ça devient alarmant.
Oui, bah après, pas beaucoup de déceptions pour ma part du côté de l'Amstel et de la Flèche où on n'attendait rien d'autre. Ce sont des courses, bah, malheureusement, l'Amstel, ça devient une habitude où ça se joue quasiment au sprint. Voilà, Gasparotto a vraiment bien négocié son affaire. Et finalement, bah, Gasparotto, c'était pas quelqu'un qui avait la pancarte. On savait qu'il l'avait probablement dans les jambes, cet Amstel, mais bon, c'est pas quelqu'un qu'on va marquer comme on va marquer un Valverde.
Surtout qu'on attendait d'autres coureurs que Gasparotto qu'on allait gagner cette course-là.
Oui,
quelque part, notre attente était différente de ce vainqueur qui arrive là. Et où, voilà.
Après, on reste sur je reste sur ma lancée d'explication comme quoi il y a moins de patrons qu'avant dans le peloton et c'est sûrement tant mieux vu que ça montre un niveau plus homogène. La Flèche Wallonne, ça se joue toujours à la pédale. Tous les kilomètres qu'il y a avant les 200 derniers mètres, ça ne sert malheureusement pas à grand-chose, mais bon, c'est la Flèche Wallonne. Et Liège-Bastogne-Liège, oui, là aussi, je pense qu'il y a cette histoire de qu'il y a moins de gros costauds qu'avant et donc
peut-être pas qu'il y ait moins de costauds, mais peut-être que le niveau est plus nivelé justement et que
il y a des garçons qui pourraient attaquer de beaucoup plus loin comme Nibali l'avait fait par le passé, l'année où il se fait doubler par Iglinski. Il y a également Hinchelek qui avait gagné en partant de loin. Bon, ça peut se faire, mais il faut avoir envie et surtout les jambes de partir de loin et surtout risquer de perdre, et c'est peut-être ça qui pose problème. Max, on risque de moins en moins de perdre dans le vélo.
Bah, si un Français aurait gagné ce week-end, on dirait peut-être pas ça.
Oui.
Bon, je suis toujours un peu à controverse de ce qu'on dit, mais moi j'ai pas regardé, mais bon, enfin voilà. Bah,
c'est-à-dire que ça a très peu attaqué quand
les classiques,
attaqué,
c'est bon, ça se passe. Et où ça va être une belle victoire, enfin une belle course, ou alors ben voilà, ça se fait comme ça s'est fait ce week-end, mais il y a quelques semaines quand la Philippe fait encore deux, c'était sympa quoi. Donc c'est assez bon. Mettre des murs, mettre de la course toute plate, c'est les coureurs qui font la course, hein, c'est pas
ouais, mais après, bien sûr, mais après, si tu c'est les coureurs qui font la course,
surtout c'est long. C'est
maintenant,
long.
Tu la feras différemment si tu as 150 bornes ou que tu as 250 voilà, bornes. Et peut-être qu'aujourd'hui, il faut justement revoir ces distances-là, raccourcir un petit peu pour qu'on ait, peut-être comme tu dis, Nicolas, plus d'attaques.
Ouais,
peut-être que l'aller jusqu'à Bastogne ne sert peut-être à rien. Après, la course, elle est d'historique, elle est comme ça, mais peut-être qu'aujourd'hui, il faut revoir, comme tu dis, et peut-être couper cette première partie-là et laisser une course beaucoup plus de mouvement, quoi, ou honorable, c'est sûr, c'est certain, on le voit, les étapes qui sont courtes, c'est plus de mouvement. Hein.
Mais c'est ça, enfin, quand ils partent pour 200 bornes au menu, les coureurs, déjà, ils savent très bien qu'il y a au moins 50 bornes qui sont petits plateaux.
Les conditions, il ne faut pas oublier les conditions qui étaient quand même extrêmement difficiles.
Moi aussi, les conditions difficiles.
C'est pour ça. Si à cette période-là, souvent, c'est des conditions, en ce moment, ils ont ramassé là, les derniers week-ends, bah, autant faire une course de 130, 150 bornes.
Ouais, oui.
Déjà, il y aura moins de souffrance et ils pourront se réchauffer plus vite vu que c'est plus court. Hein. Mais bon, c'est les organisateurs, hein, on va pas changer les classiques.
Benjamin, quoi d'autre comme réaction, comme autre piste du côté des forumers de Vélo Club du Net qui ont contribué à ce débat?
Après, s'il n'y avait pas de patron, il y a quand même un coureur qui est le maître des Ardennaises qui est toujours là, c'est Alejandro Valverde.
Ouais.
Il a une équipe Movistar très, 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 très forte à son service.
Et très dévouée.
C'est vrai que dans la Redoute, quand tu veux attaquer, tu sais qu'il reste 40 bornes et que tu vois qu'il y a 7 Movistar qui amènent le peloton, dont un Bettencourt retrouvé. Je comprends que certains coureurs n'aient pas envie d'attaquer. C'est pareil, même si la Movistar faillit, il y a la éthique derrière avec tout autant de coureurs, parce que aujourd'hui on a des, entre guillemets, des multinationales avec des coureurs équipier, mais qui pourrait être leader dans d'autres équipes, quoi. Donc, ça coince là aussi.
Max ?
Ouais, moi j'ai une question pour Benjamin. Je sais pas, tout hasard, est-ce que tu regardes le Tour de Turquie en ce moment ?
Alors, je le suis par live écrit, puisque malheureusement, ouais, je bosse en ce moment. Mais voilà, tu vois, là, il y a des équipes qui sont moins fortes. C'est pas une épreuve très connue, et comme certaines épreuves autres, comme des Coupes de France ou quoi, là, ça bouge, c'est un spectacle de tous les jours.
Quand on voit un peu Steve Chanel, un peu les commentateurs, ce qu'ils disent sur Twitter, ou les images qu'on peut recevoir de là-bas pour ceux qui ne peuvent pas suivre le direct, on voit qu'apparemment c'est des sacrées courses. Hein. Il y a de la bordure, il y a des cols, ça arrive, ça attaque de partout. Enfin voilà, moi le premier, hein, j'ai vu ça, et ben, j'ai l'impression que si je pourrais regarder le Tour de Turquie, je me régalerais en ce moment.
Ouais, et tu vois, ça me fait penser un peu qu'il y a un problème également avec les points du World Tour. Comme il y a quelques débats qui sont lancés en ce moment, j'en ai vu un sur Direct Vélo, sur les points de la Coupe de France amateur qui posent problème dans le déroulement des courses. Parce qu'on se bat pour des points plus que pour la victoire ou en tentant des choses. Mmh. Et je pense que les épreuves continentales, comme la Route du Sud par exemple, Paris Camembert ou d'autres, n'ont pas vraiment ce problème. Et c'est au-delà du plateau de coureurs qui est plus hétérogène qu'une World Tour, forcément. Quelque chose qui permet une plus belle course.
Mais c'est ce qui se passe sur les Coupes de France et d'un droit, c'est qu'il n'y a pas de course. Ça court pour aller engranger le maximum de points. Et tout le monde va courir au millimètre sans. Voilà, et on se retrouve dans le même cas de figure, on le voit.
Ben oui, enfin, nous, rien que la première manche, moi j'ai fait la D2, mais là, cette année, la première manche en D3, j'y étais pas. Mais bon, tout s'est fait sur le circuit final. Il y avait 160 km de course, ça n'a pas réussi, c'est sorti, mais c'est rentré. Voilà, et tout se fait sur la fin. Et à la fin, il y a 40 mecs qui vont jouer les points. C'est en D1, on voit aussi que bon, il y a quand même eu une belle course il y a quelques semaines, là, dans Lot-et-Garonne. Mais c'est sûr que tout le monde calcule les points. Donc après, il y a beaucoup de différences. Et puis, c'est quoi ? C'est 8 courses dans l'année qui vont faire un classement. Alors que je pense qu'ils feraient un classement sous la régularité, peut-être que ça serait différent.
Oui, non, le Tour de Turquie qui plaît de plus en plus. Hein. Puis on se souvient de cette super équipe Turku hein, qui faisait la folie dans les.
La réputation qu'avait le Tour de Turquie, c'est vrai que ça n'avait pas envie de regarder. Mais ouais. Là, moi, j'ai vu en deux jours une bordure de Kajaroa, là où tout le monde a fait les éloges, c'était la folie. Puis lendemain,
le petit pays au Bilbao.
C'est l'auto Mélissol, c'est ça, qui en met une aussi, ce que j'ai vu. Auto-Soudal, oui.
Quentin Paché qui est pas mal aussi là-bas.
Et Café, moi, j'ai vu le petit résumé vidéo de Grégorio et Paché. Il s'est arraché le Paché, là. Et puis, ils sont allés chercher une petite place. Non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ça. Et puis, c'est une course de mouvement. Hein. T'as la bordure, mais derrière, ça essaie de revenir. Enfin, c'était sympa.
Guillaume, tu voulais rajouter quelque chose ?
Non, rien.
Sûr, non, c'est impeccable. C'est complet. Benjamin, avant de refermer la page classique, peut-être que les internautes se sont tournés vers la suite aussi ?
Ah ben oui, forcément, puisqu'il y a le Tour de Romandie qui a commencé hier avec les grands leaders de course par étapes, puisqu'il manque quasiment que Valverde et Contador. Donc forcément, maintenant, on tourne les yeux vers la montagne, vers le Giro qui approche, en espérant qu'il n'y ait pas trop d'étapes annulées à cause de la neige, parce que je ne sais pas si tu t'es penché sur le parcours, mais il compte passer par la cime de la Bonnette, par exemple, qui est à 2800 mètres d'altitude.
Ils ont raccourci aujourd'hui, si je ne me trompe pas.
Aujourd'hui, autour de Romandie, ouais, ils ont raccourci les 50 premiers kilomètres. Il y avait des températures négatives et il y avait une descente de col, donc forcément, on peut prendre de risques.
Ouais, donc pour la Bonnette, ça risque d'être compliqué, mais c'est le problème du Giro tous les ans. Il arrive tellement tôt.
Oui,
que...
mais le Giro est tellement spectaculaire qu'on l'aime aussi pour ça. C'est sûr que les coureurs n'aiment pas ces moments sur le vélo, mais pour les téléspectateurs, en tout cas, c'est sûrement l'une des courses les plus spectaculaires de l'année. On est rarement déçu du Giro sur l'ensemble des trois semaines.
C'est sûr que.
Ça dépendra du leader.
Du leader.
C'est leader italien.
Il y a Valverde qui vient cette année.
La course peut-être ne sera pas.
Et Nibali qui sera là-bas. Il y a notre ami Rigoberto Urán. Il y a Perrault, Jean-Christophe Perrault, hein, je crois, qui va faire le Giro aussi cette année.
Il y a Bettencourt.
Bettencourt aussi, probablement. Ben, là où il avait fait des belles choses aussi.
Méfiez-vous de Bettencourt.
Petite réaction là, du vélo club Lanilis, oui. Qui nous répond que les équipes sur route est un sport d'endurance.
Oui.
Réduire les kilomètres dénaturerait le vélo. Liège-Bastogne-Liège ou le Ronde sur 150 bornes, qu'est-ce que ça donnerait ? Et il n'a pas tour non plus.
Et oui, c'est aussi
les
ça.
Je sais pas si je disais sur les grandes classiques, les monuments, je ne sais pas si réduire les kilomètres changerait, puisque sur une course d'un jour avec les équipes alignées, ce serait peut-être même plus facile pour elle de contrôler s'il y a 2-3 équipes en Médicament Vistar qui s'allient, je sais pas. Après, sur les grands tours, c'est différent. Je pense qu'il en faut pour tout le monde.
Il en faut pour tout le monde. Benjamin, on a été complet sur le petit débat des forumers.
Oui, je peux rajouter un petit mot qui n'a pas trop de rapport.
Vas-y, si tu as une petite annonce à faire passer.
Il y a parlé de natation.
C'était pour saluer la victoire de Samuel Leguevac du team GSO sur la case 13 dimanche, qui a fait 115 bornes d'échappée solitaire pour gagner devant Thibaut Vassal et Ghislain Lapendry.
Ah, quand même.
Bon, mais ça veut dire que ça attaque dans les courses comme ça, là. Hein, plus que...
Voilà.
Bon, et le Tour d'Europe. Ouais.
Souligne l'initiative des organisateurs qui, sur la ligne de départ, ont annoncé bon, ben, c'est simple, si un commissaire vous voit en train de jeter un détritus par terre, un paquet ou quoi, pas la peine, vous serez déclassé, on prend votre dossard, c'est terminé. Je trouve que c'est une initiative qui devrait se démocratiser parce que. Il y a un peu marre des cochons qui dégueulassent la route lors des courses ou même lors des entraînements.
Merci Nicolas Hulot pour cette minute. Non, je plaisante. Max, si vous voulez confirmer.
Ah non, nous, la dimanche, c'était plutôt sur les ronds-points, ronds-points à gauche. Donc ils sont en train de. C'est bien, il faut continuer à faire ça parce que ça limitera aussi peut-être des accidents. Ouais. Et bon, le papier, c'est peut-être pas un accident, mais c'est un réflexe à pas prendre du tout. Donc non, c'est bien ça. Il faut qu'ils continuent à être un peu durs sur ces trucs-là. Ils ont raison, pas de soucis.
Pas de soucis. Benjamin, le Tour de Romandie, qu'est-ce que t'en dis de ce Tour de Romandie? Nous, on va faire nos petits pronos à la fin de l'émission. Qu'est-ce que t'en attends?
J'en entends plus que le Tour de Catalogne, puisque j'avais été assez critique avant le Tour de Catalogne, et bon, bien entendu après, puisque c'était nul. Mais non, je pense que là, il y a les coureurs qui commencent à avoir envie de se mesurer les uns envers les autres, pour voir qui est en forme, qui ne l'est pas. Des coureurs qui sont prêts pour le Giro, d'autres qui voient plus loin pour le Tour de France. Je pense que Thibaut Pinot peut faire un gros truc et par contre à surveiller Chris Froome.
Ouais.
Qui, comme on le sait, la Sky fait des entraînements très durs. En 2013, il voulait le leadership sur le Tour de France. Il avait tout explosé toute la saison.
Ouais.
Et petit à petit, on remarque que son état de forme se réduit en temps sur l'année.
Ouais.
C'est des entraînements très durs, notamment mentalement. Et je suis pas certain qu'il refasse numéro comme il faisait il y a quelques années sur la Romandie.
Ouais, la Romandie, d'autant qu'il y a Nairo Quintana, il y a pas mal de monde. Hein. Il y a également Thomas qui a eu chez Sky, Tom Dumoulin, Richie Porte est là, mais c'est pas la grande joie pour Richie. Ouais, Pinot à suivre, bien évidemment, sur ce tour de Romandie. Merci Benjamin d'être passé.
Merci à vous, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin d'émission.
À très bientôt, on se retrouve bien évidemment dans Radio Vélo et puis sur le Twitter @radiovélo31 avec Guillaume qui est aux manettes, la page Facebook et puis également eh bien, le forum de nos amis de Vélo Club du Net. Justement Guillaume, on va commencer la chronique matos avec lui, on continuera après bien évidemment. Guillaume Monet, est-ce que les finances sont bonnes là? C'est ça? Non, c'est pas ça. Quoi de neuf? T'as encore voyagé, c'est ça?
J'ai encore voyagé, ouais, mais ça c'est à part.
C'est
toujours pour le boulot.
C'est pour la famille, bon.
Non. Ouais, je suis allé visiter l'usine, pour ceux qui connaissent, l'usine Fizik en Italie. Donc je reparlerai peut-être la semaine prochaine.
D'accord, donc du nouveau matos, non, des infos, qu'est-ce qu'il y a sur le
coup? Un peu de nouveau matos, c'est pas totalement, c'est une nouvelle compatibilité. Les compteurs Garmin Edge 520 et 1000 sont désormais compatibles avec les groupes Campagnolo EPS, donc les groupes électroniques, et SRAM ETAP. Donc ça permet d'avoir sur le compteur le braquet qu'on a. Et le niveau de batterie, donc c'est toujours intéressant plutôt pour ceux qui ont peur
de niveau de batterie des groupes électriques.
Ouais.
Ok.
Voilà et le braquet qu'on a plutôt que de baisser la tête, savoir sur quel pignon on est, on a tout sur le compteur.
Ouais, c'est déjà compatible avec le DI2 et avec le DI2 et l'Ultegra déjà chez Garmin.
Je crois pas.
Si Garmin, si.
D'accord.
C'est l'option sur le même sur le 7.
Ah oui. Alors, par contre, oui, sur Shimano, faut rajouter par contre un. Ce qu'ils appellent le D-Fly, je crois, un petit module
qui permet qui
envoie les données, alors que chez Campagnolo et SRAM, il n'y a pas besoin. D'accord. Donc voilà. Ensuite, une nouvelle réglementation qui est passée quasiment inaperçue. Moi, c'est une marque qui m'en a parlé. Jusqu'à présent, en fait, pour livrer les vélos à distance, logiquement, fallait qu'ils soient intégralement montés. C'est-à-dire le vélo entièrement réglé, les roues montées, les pédales montées, etc. Y a un nouveau décret depuis le 29 mars 2016 qui est rentré en application le 1er avril. Qui modifie ça. Donc maintenant, les marques qui font de la vente à distance, style Canyon par exemple, ont le droit de livrer le vélo avec les roues qui sont pas montées, les pédales non montées et le guidon, on va dire, tourné à 90 degrés comme ça se faisait déjà. Seule obligation pour eux, c'est qu'ils doivent fournir le matériel pour monter le vélo et une notice très détaillée. Parce que tout le monde, enfin encore que ceux qui commandent pour Canyon ou d'autres marques, logiquement savent monter un vélo. Mais voilà, c'est une nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur le 1er avril, qui est passée assez inaperçue. Et je voulais reparler rapidement des freins à disque.
Oui.
En fait, il y a les marques, j'ai eu des échos, les marques s'inquiètent, en fait, qu'est-ce qu'elles vont faire de tout leur stock de vélos.
Oh là là.
Et oui, parce que les vélos déjà de cette année, ils vont avoir du mal à se vendre. Et puis,
j'ai bien fait de garder mon vélo de cross, c'est
ouais.
Classique.
Encore qu'en cross, tu as le droit d'utiliser les disques, logiquement.
Oui, un cyclocross.
Il y en a un qui saute ouvrir le.
Il y a que sur la. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui posent la question, justement, ça tombe bien que tu en parles. En cyclocross, les freins à disque sont autorisés. Il n'y a que sur la route que ça a été interdit.
D'accord. Et pour le loisir, là, pour se balader, les cyclotouristes,
là,
tout
on
ça,
a le droit.
Ils ont le droit.
Même les cyclosportifs, on va dire, style l'Ardéchoise, il y a deux types d'épreuves. Il y a la randonnée qui n'est pas chronométrée, là, on a le droit d'utiliser les freins à disque. Par contre, l'épreuve chronométrée qui est sur une journée, là, on n'a pas le droit. Donc, c'est vrai que ça devient compliqué. Mais c'est vrai que voilà, les marques là, ça commence à s'inquiéter, savoir qu'est-ce qu'elles vont faire de des vélos qu'elles ont lancés en production, parce que beaucoup de gens attendaient.
Après, ouais, quand on voit le nombre de chutes qu'il y a dans une saison de vélo, là il y a eu juste un blessé. C'est sûr qu'à Paris-Roubaix, il fallait sûrement y penser avant de ne pas les mettre. Mais s'il y a bien une course dangereuse, mais est-ce que
après,
moi je fais pas.
Là où les marques râlent beaucoup, c'est vrai que c'est l'UCI qui a pris une décision, on va dire.
Drastique, hein. C'est rare d'avoir. C'est vrai que quand il y a des affaires de dopage, ils sont moins rapides, les mecs.
C'est ça, ils mettent beaucoup plus de temps à réagir.
Voilà,
là, ils ont été. De suite, ils ont tout coupé. Bon, c'est une suspension pour l'instant de l'autorisation. Mais voilà, il faudrait qu'ils en parlent avec les marques. Et puis apparemment, les marques ont des solutions à proposer pour éviter que ça coupe ou autre.
Oui, vous mettez du plastique autour.
Voilà, donc il y a des marques qui ont des choses à proposer, mais c'est vrai que c'est compliqué, ça fait pas bien.
Ça reviendra.
Oui, ça reviendra.
Toutes les marques qu'il y a derrière et la pression qu'ils vont mettre, ce qui a été fait, c'est sûr, ça reviendra.
C'est juste qu'il
suffit d'inventer quelque chose.
Il aurait fallu qu'ils en discutent avant, peut-être.
Voilà.
C'est le problème.
Deux infos, Guillaume ?
Non, pour l'instant, c'est tout. C'est assez calme en ce moment.
C'est calme, c'est les vacances pour tout le monde ?
Non, c'est pas les vacances, mais bon.
Allez.
Ouais, j'ai vu une petite fabrication d'un maillot dans une usine. C'est pour plus tard, ça ? C'est intéressant de voir quand même qu'il y a une usine en France, c'est ça ?
Usine en France, mais là, pour l'instant, c'est juste un test. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la marque Poly qui est à Marseille, qui a lancé un configurateur où on peut faire en fait des maillots et des cuissards à l'unité. Alors, c'est pas spécialement donné, c'est 99 € le maillot et 95 € le cuissard. Mais pour ceux qui veulent faire une personnalisation vraiment à l'unité pour un événement ponctuel, c'est qu'en général, les marques demandent au moins 10 maillots, 10 cuissards. Donc voilà, c'est juste un test, je fais un test.
Mais c'est intéressant parce que ça se perd, les fournisseurs de maillots en France. Moi, la semaine dernière, j'étais chez Garuda qui était en Normandie. C'est intéressant de rentrer dans l'usine et voir que tout était fait de A à Z à la main avec du personnel qui était en train de faire la couture, tout ça, et donc les machines qui impriment et tout. Donc je crois qu'ils sont trois avec Nouré aussi, autant que tous ces cités, mais je crois que c'est ça.
Peut-être ils sont trois ou quatre en France,
donc c'est plus cher, mais c'est le made in France.
Voilà, donc je teste ça, et puis je pense à bientôt un test avec Garuda qui fournit, je crois, Penem.
Ah oui, c'est notre fournisseur, on y est passé la semaine dernière. On fait des petits tests.
Et chez Poly, du coup, si on en prend plus, c'est moins cher quand même.
Oui, alors là, c'est vrai. Là,
c'est un maillot.
Non, faut faire la coupure d'ailleurs. Tiens, on va en parler pas.
Non, là, voilà, c'est un tarif parce que c'est pour des trucs à l'unité.
Ah ouais.
Et après, toutes les marques,
en plus, on en prend. Par exemple, si Radio Vélo, on se fait des maillots là, bon.
Ça sera beaucoup moins cher, mais voilà, faut.
Non, mais on lance l'appel s'ils ont envie de.
C'est pas pour prendre la les maillots.
C'est toujours bien pour les petites balades, les âgés, les repas pizza. Bon, bref. Julien, oui, dans ton.
C'est ta radio.
Pop. Rock. Sport. En exclusivité, le jeudi à 19h. En rediff, le samedi 20h. Ainsi qu'en podcast.
L'amour est une descente à vélo. Un tour de France. jamais pris de fusée horaire. Toujours suivi les mêmes schémas. Car la roue tourne, car la roue tourne, retourne.
Allez, pendant que notre ami Guillaume tente d'appeler une copine, on va se retrouver avec le reste de l'équipe pour parler un petit peu de cyclisme amateur. Max, tu disais que tu suis le Tour de Bretagne, c'est bien.
Ouais, je suis ça à distance parce que c'est une belle course. En plus, en Bretagne, ils font pas chose à moitié. Si je dis pas de bêtises, je me demande même s'il y a pas eu des images d'hélicoptères sur le Tour, parce que j'ai vu des vidéos, des photos. Donc je sais que là-bas c'est leur mini Tour de France et là depuis ça a démarré si j'ai pas de bêtises il y a 2-3 jours, c'est la troisième étape aujourd'hui. Et victoire française avec Cyril Patou du VC Loudéac qui marche terriblement fort en DN Loudéac, on sait hein, ils écrasent la Coupe de France et donc c'était pas surprenant de les voir aller en claque une en Bretagne, ça y est, ils l'ont claqué avec Cyril Patou et deuxième c'est le frère Alaphilippe, Brian.
D'accord.
Oui, c'est un c'est ça.
Ouais, et jusqu'alors les Français s'étaient pas montrés. Enfin, Cavegna avait fait une échappée solitaire, et puis là, du coup, ils ont fait 1 et 2. Enfin, c'est pas la même équipe, hein, mais voilà, donc on voit que sur ces épreuves-là, qui sont quand même avec les pros, hein, ils sont les amateurs. Enfin, Brian Alaphilippe, c'est pas un amateur, c'est chez l'armée de terre.
Ouais.
Mais intéressant, Loudéac, en fait, quand ils écrasent comme ça en DN1, c'est que si on les fait courir chez les pros, ils seront pareils. Ils ont le niveau aujourd'hui des pros, donc ça prouve que le niveau amateur est quand même très très élevé. Quoi.
Très élevé et bien évidemment on va suivre ça de près. Notre ami Jean nous a envoyé également pas mal d'infos hein, et Mélanie par contre on voulait faire un gros clin d'œil à une très mauvaise nouvelle hein, qu'il y a eu cette semaine.
Il y a eu deux.
Deux.
Le Florent Santu qui s'est sérieusement blessé le lundi dans le circuit Boussacain.
Le jeune Louis Carles, 14 ans, cadet du VC Rodez en fait, qui est décédé la nuit de dimanche à lundi. Donc on connaît pas encore les causes du décès, mais on voulait
évidemment lui dédier cette émission. Julien aussi, on a une grosse pensée pour notre ami Florent Santuc hein, oui. qui est sur Radio Vélo et bien évidemment on passe à lui à toute sa famille. Et on continuera bien évidemment cette page amateur tout à l'heure. Guillaume, on a réussi à avoir notre invité. Là, ça y est, t'as fini de tapoter sur ton téléphone.
Ça y est, j'y suis arrivé.
C'est pas le bon numéro ou quoi
Si, j'avais le bon numéro, mais ça va pas fonctionner. Marion, tu nous entends?
Oui, exactement, c'est bon, je vous entends.
Voilà, Marion Gachy, donc qui est, alors en anglais c'est Media Officer, je sais pas comment on pourrait traduire ça en français, chargé relations presse.
Oui, attaché de presse, même Media Officer, ça passe aussi en français.
Voilà, donc Media Officer pour l'équipe IAM Cycling. Je sais pas si c'est chroniqueuse, présentatrice sur Eurosport.
Ex-journaliste.
Voilà.
C'est presque du journaliste, cette autre fonction. Mais oui, on avait envie d'avoir Marion Gachy au téléphone pour parler un petit peu de ce rôle. Passionnant, en tout cas, on imagine en charge un petit peu de média officier des relations presse aussi pour les équipes de vélo qui donnent sûrement des conseils de communication. Toutes les équipes pro et World Tour n'ont pas ce genre de personnes encore en poste, mais du côté de comment on dit en anglais, vas-y,
IAM Cycling. Elle pourra nous le dire, elle pourra nous confirmer.
Il y a ce développement, Marion. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des rôles qui te sont confiés?
Alors, les rôles, enfin, déjà, pour définir la profession d'attaché de presse, on est vraiment le lien entre les médias et les coureurs. Et j'insiste vraiment sur le fait qu'on est un lien, on n'est pas du tout une barrière entre les deux professions. On est là pour aider les journalistes à contacter les coureurs, tout mettre en place pour la bonne réalisation des sujets, dans notre but, nous aussi, bien entendu, d'assurer une bonne visibilité de l'équipe. Et puis après, on est aussi en charge de toute la communication interne de l'équipe. Donc ça passe par l'organisation des conférences de presse, par la rédaction de communiqués de presse après les courses, et aussi à toute la communication, alors qui est beaucoup plus, des temps modernes entre guillemets, beaucoup plus actuelle sur tous les réseaux sociaux.
D'accord, les réseaux sociaux qui ont une place prépondérante, Guillaume.
Ben justement, en parlant de réseaux sociaux, je voulais savoir, moi, est-ce que vous donner des conseils ou peut-être faites une formation aux coureurs pour tout ce qui est réseaux sociaux, parce qu'il y en a certains qui sont à l'aise avec ça, d'autres un peu moins. Est-ce que vous les incitez à participer? Est-ce que vous leur faites une formation?
Alors, chez IM Cycling, non. Je sais que dans d'autres équipes, oui, on va peut-être plus les accompagner, leur dire qu'il faudrait créer un compte Instagram, Twitter et compagnie. Nous, vraiment, chez IM Cycling, on les laisse complètement libres. On a des coureurs qui sont pas du tout présents sur les réseaux sociaux. D'autres, oui. Et pour ceux qui ont un compte Twitter, Instagram, je parle vraiment de ces réseaux-là parce que c'est peut-être ceux auxquels, qui ont le plus de visibilité. Là, on les laisse complètement libres dans leur choix des hashtags, leurs messages et tout ça. C'est vraiment un lieu où ils peuvent s'exprimer et à la limite où garder ce côté naturel en fait. C'est bien, je pense que c'est important pour les équipes par exemple d'avoir un attaché de presse, mais c'est aussi bien de laisser la parole aux coureurs de ce qu'ils pensent vraiment pour que leur discours ne soit pas tout le temps trop stéréotypé.
Oui, ben ça c'est sûr que les discours stéréotypés dans d'autres sports, on le constate encore plus, hein, le vélo est encore assez libre pour ça. Est-ce que ce soit dans votre équipe ou autour du point de vue dans une autre équipe, est-ce que vous avez déjà vu des dérapages, des dangers quand même de ces réseaux sociaux pour les coureurs cyclistes et les équipes ou finalement ça n'arrive pas si souvent que ça les problèmes de ce côté-là?
Les dangers, on est toujours exposé parce que c'est quelque chose de très libre. Donc, c'est-à-dire que n'importe qui peut se créer un compte Twitter et aller converser avec Chris Froome, Alberto Contador ou enfin les cadors du peloton.
Oui.
Donc, le danger, ça peut être cette proximité-là. On peut recevoir des attaques directes et tout ça. Après, honnêtement, chez IM Cycling, j'ai pas le souvenir d'avoir été confrontée à des dangers comme ça. Puis les messages peuvent être perdus dans tout le flot quand on est les cadors et qu'on reçoit comme ça un flot d'insultes et tout ça. Les messages sont relativement perdus. Puis non, j'ai pas le souvenir d'avoir vu des dérives comme ça.
Pas de situation trop compliquée à gérer du coup avec les réseaux sociaux, l'animation des réseaux sociaux aussi pendant les courses. Comment ça se passe? Vous êtes souvent sur les courses ou?
En fait, on est plusieurs. Je suis pas toute seule à gérer les réseaux sociaux. Je pense que pour bien faire, il faut y être 24 heures sur 24. Parce que là, nous, on vit à l'heure européenne, mais il y a aussi une partie qui va être plus sur le fuseau horaire américain, qui est complètement décalée. Donc, si on voudrait assurer un suivi continu, il faudrait être 24 heures sur 24. Donc, on est deux personnes à être sur Twitter, par exemple. Et par exemple, voilà, moi, je suis souvent sur les courses. Mais on a une autre personne qui va être plus en backup, qui va être derrière, parce que sur les courses, on est soumis aux aléas de la course, quoi. Enfin, des fois, on est à l'arrivée au sommet d'un col, on capte pas forcément, on peut toujours peut-être ne plus avoir de batterie, puis on suit parfois, et c'est ça qui est assez paradoxal, mieux la course derrière un écran. On voit ce qui se passe de suite, s'il y a une chute, voilà. Donc, on est deux personnes à se relier comme ça, ce qui assure un travail complémentaire et un rendement assez, uniforme sur notre présence sur les réseaux sociaux.
Max, toi qui suis ce sujet notamment dans ta vie professionnelle.
Ça m'intéresse bien tout ça, c'est très intéressant, enfin moi je trouve ça. J'avais justement une petite question pour rebondir là-dessus, est-ce qu'on peut avoir une idée du budget à l'année donc de IM Cycling et le nombre de personnes que ça peut employer pour gérer tout ça derrière, sans compter les coureurs?
Sans compter les coureurs?
Oui, si on peut avoir une idée, ça serait plus une idée sur tout ce qui est la partie hors équipe, en fait, comme les postes comme le vôtre.
Ouais.
La logistique.
Les coureurs, il y en a 28. Dans l'équipe communication, on est 4. Déjà, et après, si on compte tout le staff, donc quand je dis le staff, ce sera les masters, donc ce qu'on appelle les soigneurs. Il y a les mécaniciens, il y a les ostéos, il y a les docteurs, il y a la diététicienne, puis il y a aussi tout le travail administratif. Ça regroupe une soixantaine de personnes au total.
Ouais. C'est des chiffres que je voulais avoir. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment énorme.
Ah, mais c'est vrai que même 4 personnes pour la communication, on voit que la communication, je pense que les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup, a pris une grosse importance dans les équipes. Est-ce que tu as connu, toi, le fonctionnement de la communication des équipes avant l'avènement des réseaux sociaux? Ou en tout cas, est-ce que tu as eu des échos? Comment ça se passait? Est-ce que c'était plus simple pour les équipes?
Alors, j'ai pas connu, parce que ça, je suis encore jeune, mais.
Elle a pas connu le Minitel, Guillaume, pas comme toi.
Je n'ai pas encore vraiment connu, enfin, du moins, je n'étais pas encore dans le milieu professionnel quand il n'y avait pas tous les réseaux sociaux. J'ai bien conscience que ça aide énormément. Parce qu'au final, souvent, on met des infos, mettons, sur les réseaux sociaux. Alors, je parle sur Twitter, parce que j'ai quand même l'impression que c'est le réseau numéro un dans le cyclisme. On met des infos, souvent, qu'on met que sur Twitter, qui ne nécessitent pas forcément un communiqué de presse, comme au final, on communiquait avant. Et c'est vachement complémentaire, et puis ça nous est surtout très, très utile, quoi. Mais juste pour revenir, quand je disais qu'on était quatre dans la communication, c'est quatre communication et marketing. Donc ça aussi engendre englobe tous les sponsors, les partenaires et tout. Ce qui peut paraître beaucoup, mais je pense que quatre, c'est bien pour faire du bon travail.
Bonsoir Marion, comment on devient... qu'est-ce que c'est qui attire pour prendre un poste comme ça?
Qu'est-ce qui m'a attirée pour prendre ce poste-là?
Oui.
J'ai toujours été passionnée de vélo, de cyclisme. J'étais journaliste avant. Et je voulais voir comment ça se passait de l'intérieur. Je voulais surtout rendre service au vélo. Non pas que les journalistes ne le font pas du tout, mais je voulais voir comment ça se passait dans une équipe et aider, parce que je suis persuadée que le vélo peut évoluer, peut progresser. Et c'est ça qui m'a attiré vers le fait de travailler dans une équipe en interne. Pas forcément j'exagère quand je dis ça, mais sous les feux de la rampe, mais être plus seul, plus le travail de l'ombre qui va tirer le cyclisme vers le haut.
Ouais, c'était en tout cas un super état d'esprit, Guillaume.
Ah non, moi j'avais pas d'autres questions, parce que je connais un peu son métier. D'ailleurs, je voulais la remercier, parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant toujours intéressant pour moi, qui suis un peu journaliste. Des fois, je veux contacter des coureurs. C'est toujours intéressant d'avoir un attaché de presse. Ça permet, comme elle disait, de faire le lien.
On le voit clairement. Rien que pour les équipes françaises avec qui on essaie d'entrer en contact régulièrement, il y a du tout au tout. Suivant les équipes françaises de haut niveau, de tout au tout. Il y en a, ils sont très réactifs. Ils ont vraiment un service dédié à ça. Et il y en a, pour entrer en contact avec eux, il faut s'accrocher.
Voilà. Et je pense que c'est même pour les coureurs, ça doit être bien aussi d'avoir, même si c'est un lien, je pense que Marion, je pense que tu filtres aussi de temps en temps pour, je pense à des grosses épreuves comme le Tour, tu dois bien être obligé de filtrer un peu.
Chez Yann, on part du principe qu'on refuse pas les interviews. Tout le monde, que ce soit un petit site internet ou une grosse télé internationale, a le droit d'avoir sa part d'interview, son moment avec le coureur. Après, bien entendu, il va de soi que sur les grosses épreuves, on essaye de filtrer ou du moins de donner un ordre de priorité. Mais pour les coureurs, je pense aussi que c'est vachement important d'avoir quelqu'un. Quand ce journaliste ou attaché de presse, on aime le cyclisme et on est là pour aider le coureur. On n'est pas là pour mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est juste peut-être une répartition du temps de travail du coureur, de priorités, de dire voilà, maintenant tu peux faire ça, si, ça. Et voilà. Mais c'est oui, pour aider les journalistes aussi. Parce que sans les journalistes, les équipes aussi ont besoin des médias. Et ça, c'est ce qu'il faut faire comprendre. Alors, ils le savent, quand même, la majorité, mais il faut que les coureurs aussi en aient conscience.
Marion, pour terminer, et avant de vous remercier, est-ce que vous avez un moment peut-être à partager avec nous, un des meilleurs souvenirs que vous avez pu partager avec les coureurs, avec l'équipe, depuis que vous collaborez avec eux? Un moment fort.
L'an dernier, c'était ma première année, donc je suis arrivée dans le milieu avec des yeux d'enfant, mais du moins naïf et vierge sur ce milieu d'attaché de presse. Ce qui fait que tous les bons moments, je les ai accumulés comme ça et j'ai trouvé tout fantastique. Mais oui, il y a eu des bons moments. Il y a eu la victoire de Jérôme Coppel sur les championnats de France de contre-la-montre. Ça, c'était fort de pouvoir partager. Je me souviens, c'est moi qui avais annoncé son titre, parce qu'on attendait que Sylvain Chavanel arrive, qui était le grand favori. Et il n'y croyait pas. Il dit, mais mince, vraiment, c'est vrai, je suis vraiment champion de France, mais tu crois qu'il va m'en vouloir, Sylvain? Et voilà, c'est ce côté hyper abasourdi de Jérôme Coppel. Et je crois que c'était un des plus beaux souvenirs.
Bon. Il y a de quoi, en tout cas, ça a dû être un sacré moment. Guillaume, on va remercier Marion et puis on lui dit peut-être à très bientôt sur Radio Vélo ou sur une course.
Oui, je pense que maintenant on a un contact chez Yam, si on a besoin, et puis même si Marion veut intervenir.
Plaisir.
Voilà.
Max, si vous voulez rajouter.
Je viens de penser justement que Yam, dans le studio, on a une petite Vélosoff au niveau de la bière. Je sais que l'équipe, il communique aussi un peu là-dessus. Avec la bière Vélosoff, est-ce qu'on peut avoir quelques infos? D'où est partie cette idée vite fait? Ou c'est sympathique, ça, quand même, d'avoir une équipe qui boit une bonne petite bière comme ça après l'arrivée des courses?
Oui, c'est surtout pour le staff. Surtout pour le staff. Mais Vélosoff, c'est une entreprise qui est suisse, donc on reste toujours dans ce côté. Cette volonté de. Yam Cycling est une équipe suisse, donc on affirme cette identité suisse. Et c'était un moyen de joindre l'utile à l'agréable, mais c'est toujours convivial de pouvoir partager une bière. Et vous serez bien entendu les bienvenus pour venir au camion partager une bière avec nous.
Bon, mais on prend le matin, ça. On prend ma question. Merci Marion d'être passé d'un Radio Vélo et à très bientôt.
Merci à vous.
Bonne soirée. C'était donc Marion Gachy en direct d'un Radio Vélo de Yam Cycling. Bah, j'avoue que c'est un peu le poste de mes rêves. Ça. Moi, j'adore ça me plairait.
Ouais, c'est clair, c'est vrai que.
Moi, d'abord. Parle...
voilà, enfin, franchement, c'est un poste pour nous qui sommes passionnés de cyclistes. Même plutôt que d'être sur le vélo, je préfère faire ça, moi, personnellement. Hein. Mais bon, c'est vraiment le poste moderne qui n'existait pas il y a 30 ans, Max.
Hein? Non, mais puis moi, je suis en plein dans ce truc-là et c'est vrai que je cherche des infos partout pour savoir comment c'est géré au niveau des pros. Ouais. Parce que quand je vois un amateur, déjà, comment je me fais moi de mon côté débordé. J'imagine
4 personnes.
Une semaine et quelques, j'étais à Paris, j'ai rencontré une petite équipe de saxo. J'ai eu pas mal de retours aussi.
Saxophoniste.
C'est ça. Je vais pas jusqu'au bout du truc, mais. Non, mais voilà, enfin, Saxo Tinkoff, on sait que ça s'est arrêté, c'est que Tinkoff maintenant, mais j'ai eu des retours, ça peut être intéressant d'avoir des gens comme ça, sur comme, toutes ces années-là, comment ça s'est passé, comment ça se gère avec le sponsor, combien il y a de personnes derrière, et c'est des choses que maintenant ça intéresse les gens, comme les maillots, comment ça s'est fait dans les usines, comment c'est fait.
Les équipes qui ne mettent pas les moyens sur ce sujet-là, soit font. Ne font pas un plus pour le sponsor, j'allais dire ils font un tort au sponsor, on va pas aller jusque là, mais ils loupent vraiment un truc, et en plus pour la suite ça posera problème, parce qu'on le voit rien que nous à notre niveau, la différence entre les équipes.
Enfin, moi je pense qu'aujourd'hui dans le sponsoring au niveau du vélo, il y a celui qui va faire un chèque et merci au revoir, vous débrouillez avec, il n'a rien à cirer entre guillemets. Il y a celui qui va s'intéresser à ce qu'il donne et qui veut même s'investir dans l'équipe. Et c'est là d'où ces personnes-là vont être un élément clé pour partager les infos, communiquer, essayer de faire comme cette histoire de la bière. Ben voilà, c'est Suisse, ils sont Suisses. Rentrer une histoire dans l'équipe. Et c'est ça aujourd'hui que, enfin, moi, c'est ce que je recherche et ce que je vois chez les pros. Ben, Contador qui crée sa fondation au niveau de l'équipe. C'est plein de choses comme ça que. Voilà, que des personnes derrière, il faut des gens pour gérer tout ça, parce que tu peux pas gérer tout ça tout seul.
Très intéressant.
Des métiers méconnus quand même. Ouais. Hein, même déjà dans les mécanos, on commence à bien connaître. Après, il y a plein de monde autour, et c'est pour ça que je voulais interviewer un peu Marion, parce que c'est qu'on connaît pas assez. Et pourtant, on voit des tweets toute la journée. C'est grâce à ces personnes-là qu'on arrive à suivre l'info aussi.
L'envers du tweet. Second invité de l'émission, Julien.
Oui, Laurent Monrolin, donc le président organisateur du Tour de Jura qui va démarrer vendredi, donc une superbe belle épreuve. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas trop de neige à l'arrivée des Rousses là-haut, parce qu'on va avoir un petit peu froid. Mais bonsoir Laurent, comment ça va?
Oui, bonsoir Julien. Oui, effectivement, chez nous, on a encore de la neige sur les hauteurs, donc on espère qu'elle aura disparu ce week-end pour cette 11e édition du Tour du Jura.
Moi, je vais essayer d'amener un petit peu de soleil du sud de la France pour essayer un petit peu de faire fondre cette neige-là. À 24h, à 48h du départ, comment ça se passe?
Pour l'instant, hormis ces petites inquiétudes du côté de la météo, tout se présente plutôt bien. On a un très très beau plateau. On a vraiment cette année encore élevé le niveau sur le Tour du Jura, qui devient maintenant un peu notamment dans le Grand Est une référence des courses élites de la FFC. Sur le parcours, on aura trois belles étapes, trois grandes étapes qui promettent vraiment du beau spectacle tout le week-end.
Ouais, surtout avec une arrivée samedi, c'est l'arrivée samedi en haut des Rousses, c'est ça?
Ouais, voilà, c'est l'arrivée du côté des Rousses, donc qui est une station de moyenne montagne dans le Jura, avec la frontière avec la la Suisse, où avait une étape du Tour de France il y a quelques années, remportée par Sylvain Chavanel, hein, qui s'était imposé là-haut. Et c'est vrai que ben là, on a plus de 3000 mètres de dénivelé sur les 165 km de l'étape. Donc on est sur une vraie étape de montagne avec 5 ascensions au programme. Et puis en plus, comme le temps, a priori, ne sera pas forcément clément, ça promet une étape dantesque pour les coureurs, voilà, en espérant qu'ils galèrent pas trop quand même sur les hauteurs du Jura.
Ouais, j'ai vu qu'au niveau organisation, il y avait une caravane publicitaire. Il y a quand même pas. C'est une grosse épreuve quoi, qui rassemble beaucoup de bénévoles, beaucoup de monde autour de ça quoi.
Alors c'est vrai que maintenant pour la 11e édition, ça fait la 4e année qu'on sera au niveau du calendrier fédéral. On commence à avoir une très très belle épreuve qui est de plus en plus cotée. Et comme on le voit avec le plateau, on le voit aussi avec le nombre de candidatures des équipes. On a eu plus de 50 candidatures d'équipes. On en a retenu qu'une vingtaine pour des questions logistiques. C'est vrai, on a 150 bénévoles qui sont avec nous durant les 3 jours. Ça représente vraiment maintenant une petite entreprise qu'il faut faire tourner pour que ça se passe pour le mieux quoi.
Oui, peut-être une question. Ben, on parlait des nouveaux médias là, avec Marion Gachy qui est attachée de presse pour IAM Cycling. Justement, peut-être Laurent, si vous voulez nous dire au niveau de la communication comment ça se passe. Vous utilisez toutes les possibilités maintenant avec les réseaux sociaux notamment.
Alors c'est vrai que nous on s'y est mis aussi, et puis c'est aussi un souhait de notre épreuve pour justement apporter une touche un petit peu de modernisme au vélo, et puis utiliser des outils qui sont assez performants en termes de communication. On a une page Facebook, on a un site internet bien entendu, on a un compte Twitter, et on essaie d'être assez réactif, notamment dans la dernière semaine avant l'épreuve, pour que justement, entre guillemets, ça fasse un peu le buzz et ça fasse parler de notre épreuve sur les réseaux sociaux. On travaille aussi avec Direct Vélo qui sera présent durant les 3 jours. Voilà, on essaie vraiment de se développer pour que justement on essaye d'exister aussi sur la toile pour faire venir les gens au bord des routes et puis apporter on va dire un éclairage un peu différent sur le sport cycliste.
Pour le Jura, pour le département, c'est aussi une année importante avec notamment le Tour de France cet été, c'est ça?
Voilà, c'est ça, on aura le Tour de France qui sera de nouveau de passage dans le Jura. D'ailleurs, le clin d'œil du Tour du Jura, c'est qu'on aura la troisième étape qui partira de Moirans en montagne, qui aura le même parcours initial que l'étape du Tour de France. On aura les 40 premiers kilomètres qui seront identiques à l'étape du Tour de France. Donc là aussi, c'est une volonté des élus du département. On a le président du conseil départemental qui est vraiment un fervent défenseur du vélo. Et il souhaitait aussi développer le Tour du Jura dans ce sens. On aura la présence de Bernard Thévenet, justement, avec la société ASO, qui sera présent pour donner le départ. Il y a une vraie volonté de communiquer sur le vélo dans le Jura pour en faire vraiment un département touristique basé sur le vélo. Quoi.
Peut-être un mot du côté du plateau. C'est vrai qu'il est plutôt alléchant avec le tenant du titre, hein, Pierre Bonnet du Team Pro Imo, Nicolas Roux qui sera bien évidemment au départ dans l'équipe de Sylvain Georges, mais également de très belles équipes, de belles compositions, et puis notamment nous qui sommes de Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon même maintenant. Eh bien, on voit que l'Occitane Cyclisme Formation ou le GSC Blagnac amènent des belles équipes, et puis également les sudistes à Vendée-U, Bouchereau qui sera là. Vous êtes satisfait du plateau, j'imagine, Laurent?
Ah là, sur les 11 éditions, je crois que c'est le plus beau plateau qu'on va avoir. On va avoir 10 équipes de DNA, vous les avez citées, avec le Team Pro Imo, double tenant du titre, avec Fournet Fayard et Pierre Bonnet. On a, oui, les équipes du Sud-Ouest, alors ça nous fait toujours plaisir de les voir. On sait que c'est loin, mais ils font l'effort de venir jusque dans le Jura, avec l'Occitane qui était déjà présent l'an dernier, qui s'était vraiment bien battu. On les a vus à l'attaque tout au long des 3 jours. Pour Blagnac, ça sera une première cette année, donc on est content de les accueillir. On a les équipes également étrangères, parce qu'on a 3 équipes belges. La proximité avec la frontière, on a des équipes suisses qui seront présentes, avec des garçons comme Cazet, le Centre Mondial qui avait sorti des coureurs comme Sepulveda ou Tecle Manotte qui brillent maintenant chez les pros. Donc là, sur le plateau, je pense qu'on va vraiment avoir une belle bagarre durant les 3 jours.
D'autres questions autour de la table? On a été complet, Max, non, Julien?
Donc du coup, au niveau du déroulement, donc il y a 3 étapes, vendredi, samedi, dimanche.
Voilà, c'est un peu la nouveauté de cette année. Là, avant, on était sur 4 étapes avec des demi-étapes le samedi. Là, voilà, on a fait le choix de vraiment proposer de belles étapes. Même pour les coureurs, c'était aussi un souhait de vraiment se concentrer sur 3 belles étapes et enlever un peu les demi-étapes qui, des fois, c'est un peu tronqué, c'est difficile pour eux de remettre en route. Donc on a fait ce choix-là, on a 120 km, 165 et 100, 160 km. Donc voilà, c'est vraiment des vraies étapes coursées, on va dire. Voilà, c'est un peu le plateau qu'on propose avec une caravane, enfin vous l'avez dit, puis voilà, on aura la télé régionale qui sera présente. Voilà, on essaye de faire vraiment la fête du vélo. Comme bon nombre d'organisateurs, enfin, je pense que voilà, que vous en discutez souvent sur vos ondes, c'est pas forcément simple pour tout le monde, mais on essaie voilà de proposer quelque chose un peu différent, tout en gardant ce qui fait la richesse du sport cycliste.
Bon, moi, je crois qu'on a été complet, ça nous a mis l'eau à la bouche. C'est sûr que c'est un petit peu loin, mais on suivra d'un œil attentif. Par ton intermédiaire, Julien, tu nous tweeteras ça un petit peu le soir quand même. Tu nous feras partager avec Radio Vélo.
Voilà, il y a de l'ambiance hein, sur les soirées du Tour du Jura. Bon, on va pas dévoiler tout pour Julien, il découvrira ça en direct, mais généralement on est plutôt bien accueillis dans le Jura, même s'il fait froid, on a de quoi se réchauffer.
J'en doute pas. on se voit vendredi alors.
Eh ben, on se voit vendredi avec plaisir. Donc, rendez-vous du côté de la Caborde au sud de Lons-le-Saunier, dans le Jura, sous le soleil. Ils nous annoncent le soleil pour vendredi, donc ça sera déjà ça de pris. Et puis après, voilà, ça sera parti pour 3 jours.
Bon, ben merci Laurent Moralin d'être passé dans Radio Vélo et à bientôt.
Eh ben merci à vous et puis bonne continuation pour votre radio.
Merci. Bonne soirée.
C'était merci donc à vendredi.
Le président organisateur du Tour du Jura qui est avec nous, Laurent Moralin. Le Tour du Jura, c'est vrai que aussi bien que IAM Cycling, ils montrent des bières, ils doivent sortir les morceaux de fromage là-bas, non? Comment ça se passe?
C'est l'arrivée de ta fromage bière, un peu tout ça. Ouais. C'est bien.
Mais quand tu as parlé des Suisses Mario Gachi, je me suis dit, c'est vrai que vu que ces cyclistes ne peuvent pas se permettre de sortir du fromage ou des trucs comme ça, mais là-bas, est-ce qu'il faut quand même aussi? C'est pas mal. Suisse et Jura ce soir à l'honneur, c'est quand même plutôt sympa. La radio vélo, comme quoi, on ne fait pas du sud-ouest,
ça,
quoi. Hein.
Ça ouvre l'appétit.
Quoi. Voilà. Oui. En même temps, il n'y a plus de foie gras, donc il n'y a plus de canard. Bon, faut bien qu'on aille voir ailleurs. Julien, donc le Tour du Jura, tu nous suivras.
Je vous ferai ça de près, avec un petit peu de neige, avec un peu ce que vous voulez. Donc voilà.
Voilà, sur ta moto. Et puis, tu auras
le 7 qui revient, le 7, le 14 qui se détache.
Bon, sur ce, oui, tu suivras aussi les sudistes parce que je disais qu'il y avait du beau monde, l'ami Loïc Bouchereau, il y a également Romain Campistrou qui est remis, qui sera dans le coup avec Alexis Guérin et Verardo du côté de Blagnac. J'ai regardé un petit peu.
Le
parcours Alfonso aussi qui revient du côté de l'Occitanie. Ça va être sympathique.
Campistrou.
Tout à fait. J'ai étudié mes fiches, moi, Max.
Par son retour.
On parle un peu de régional justement avec Julien, avec Mélanie. C'est vrai qu'on disait tout à l'heure qu'on dédiait cette émission à Louis Carle. D'autres informations au niveau de ce qui se passe dans l'actu régional.
Ouais, donc on a deux sélections là qui sont parties, donc le week-end dernier et celui d'encore avant. Donc nos juniors étaient à la Coupe de France. Donc c'est l'ex-Trélon, c'est les boucles cyclistes du Sud Avenois. Donc c'était en deux étapes, il y a un contre-la-montre. Au contre-la-montre, on a Julien Aucel qui finit 32e. Donc bon résultat parce qu'il y avait 160 partants. Au niveau de la course en ligne, Cédric Fonkern fait 19e et Quentin Rossini 23e. Ensuite, donc pour le classement général de la Coupe de France, on a trois coureurs qui ont marqué des points. Donc c'est bon signe. Donc Julien Aucel, Quentin Rossini et Cédric Fonkern. Donc bon, les juniors sont en forme. Et donc ensuite, l'autre sélection, c'était les dames pour la Coupe de France à Sauternes. Donc Gélin Elsa termine 21e, Coutinho Alice 23e et Tanios Clara 32e. Donc bon résultat chez les filles, sachant qu'il y avait beaucoup de partantes, elles étaient 127 au départ, donc c'est vraiment bien pour une Coupe de France. Et là on voit que nos coureuses midi-pyrénées ont le niveau parce que elles ont fait de bons résultats. Donc voilà pour les résultats des sélections. Et après, bon, au niveau du calendrier, donc ce week-end 1er mai, donc plutôt chargé avec 6 épreuves. Donc tout d'abord les écoles de vélo à Saint-Jory, Coupe Grand Sud de Trial à Seix.
À Saint-Jory?
Saint-Jury,
il y a du vélo.
Saint-Jury à côté d'Alice. Il y a eu du vélo. C'est vrai qu'il n'y a plus trop de vélo.
Du coup, ouais, donc le trial à Seix. RJVXCO à Sept-Fonds. La Coupe Midi-Pyrénées et le championnat Midi-Pyrénées de BMX à Seix aussi. Ensuite, il y a le Grand Prix de Colomiers. Donc là, c'est une grosse épreuve avec les 2-3 juniors PC, PCO, Minime Cadet. Et enfin, le trophée de Lourdes, donc Minime Cadet. Voilà pour le week-end.
Merci Mélanie, tu as été complète une nouvelle fois. Julien, tu voulais rajouter quand même 2-3 bricoles.
Bon, 2-3 bricoles,
les télégrammes de Jean.
Ouais, les télégrammes de Jean. Il y avait de la piste ce week-end à Tarbes. Il y avait le championnat Midi-Pyrénées, américaine cadet, avec la victoire de Guillaume Gay et de Nicolas Bouraoui. Voilà, il y avait pas mal d'épreuves. Il y a, ce qui est bien aussi, que j'ai remarqué, c'est que chez les jeunes, en fait, ils ont rajouté, un petit peu comme dans les cyclocross, un petit peu les écoles de vélo. C'est-à-dire que les Benjamins peuvent participer. Jusqu'à maintenant, ça commençait à partir de minime. Et là, on a les Benjamins, voilà, qui peuvent aller participer à ces épreuves de piste. Et encore une fois, aussi bien que le cyclocross, ben, la piste fait partie, de l'école de vélo, quoi. Donc c'était une bonne chose et j'espère que d'ailleurs ça va se démocratiser un petit peu aux autres catégories d'école de vélo, parce que ça va donner goût à certains coureurs aussi de découvrir la piste et d'avoir plusieurs, peut-être des pistards pour le futur, hein. C'est important.
Max, est-ce que tu avais d'autres infos, des petits scoops à nous annoncer et rien de neuf? Ça fait quelque temps qu'on n'avait pas eu le plaisir de te recevoir.
Ouais, mais je suis bien content de
tout
revenir.
Tout va bien, ça bosse beaucoup.
Un coup de gueule?
Non, on met pas un euro et lâche le coup de gueule, non mais oh.
Mais non, mais écoute, par contre, si vous sortez les billets, j'ai un scoop.
Des fois, ça marche, Guillaume, des fois, ça.
Ça, c'est sûr, j'ai un
scoop. Les billets, je t'ai proposé une pizza tout à l'heure, t'as pas voulu.
Non, mais il y aurait de quoi discuter pendant un bon moment, de quoi remettre en place certaines personnes, mais on fera ça en temps et en heure, il n'y a pas de souci. Non, moi j'étais au Bouc de la Loire dimanche dernier. Ah, du coup, il y a un souci. J'étais au Bouc de la Loire, une belle course dans le pays nantais, une course élite, belle organisation, un peloton d'une 100 coureurs, victoire d'Axel Journeau qui était au Team Pinedenan en DN3 pendant plusieurs années et qui a signé avant du cette année. Comme quoi, ça sert à rien de se presser, dès qu'on fait ce qu'il faut, ça marche très bien.
Tout vient à point à qui c'est atteindre.
Voilà, et puis ils étaient pas vendus, ils étaient pas en surnombre, hein. Ils étaient 4-5 au départ, une belle course de mon ancienne équipe de Sablé, mais c'était joli, hein, de la bagarre sur un circuit final de 3 km et quelques en ville, pas mal de personnes à l'arrivée, c'était sympa tout ça, c'était des belles courses et il faut que ça continue parce que on sent que ça commence à être compliqué d'organiser ça.
On suit bien évidemment tout ça, Max.
Et dans un mois, la Ronde de l'Isard qui arrive.
La Ronde de l'Isard, ça arrive dans moins d'un mois.
On fait monter la pression.
On se prépare.
Je vais me chauffer autour du Jura et après on attaque
la Ronde. Il y aura la présentation dans 15 jours, la petite soirée. Et puis 19, 20, 21, 22, si mon agenda est bien noté.
On va se régaler.
Il y a de la piste à Villemur bientôt.
La Ronde de l'Isard de la piste.
Le 5B de la piste à Villemur, championnat.
On sera là. Tout ce qu'il faut, bien évidemment, vous réagissez. Merci.
Pénam sera là.
Merci Guillaume pour les réseaux sociaux. Radio Vélo 31 et notre ami de Matos Vélo. Bonne soirée à tous.
Bonne semaine. N'oubliez
pas d'écouter le podcast.
Le
podcast.
Oh, et toi, l'anglais, ça n'y arrive vraiment pas. Hein.
C'était Radio Vélo sur CETA Radio. À très bientôt.